Benoît Dutrisac.
À un moment donné, qui gère le système?
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac Dumont.
Mario Benoît, bonjour à vous deux.
Hello. Bonjour.
Alors, commençons, Mario, avec le rapport de la coroner Jeanne Kamel. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ça paraît, je pense, pour bien des gens dans le public, ça paraît doux pour les responsables. Ceci dit, il faut quand même regarder c'est qui Jeanne Kamel, là. C'est elle qui a fait Joyce Echaquan, peut vous faire la liste des rapports du coroner, puis tu vas dire, ouais, pas nécessairement une personne qui a la langue dans sa poche ou qui a peur de nommer les choses lorsqu'il faut le faire. Fait que, pas de raison de penser, puis elle a aucune raison ou aucune motivation d'agir différemment cette fois-ci de ses autres rapports ou de son tempérament. Donc, faut prendre ce qu'elle a constaté pour ce qu'elle a constaté. Il y a des évidences que c'est arrivé parce que les CHSLD, ça fait des décennies qu'on les néglige. On a tous dit ça 100 fois, là. Ça, c'est une évidence. Il y a des choses, moi je me souviens d'avoir écrit une chronique spécifique là-dessus, là, les CHSLD privés. Puis on devrait même pas utiliser ce terme-là parce que c'est pas un terme. Il y a pas de CHSLD privé. Il y a des CHSLD privés conventionnés dont elle souligne l'excellent travail. Ce qu'on appelait les hair run, les CHSLD privés, moi, je l'ai vu arriver, là. J'étais au Parlement à l'époque. On appelait ça le gouvernement achète des places. C'est ça le mot qui est employé. On manquait de places en CHSLD. Puis on prenait des institutions qui en étaient pas, qui étaient des foyers, puis tout ça, puis on leur disait, ouais, là, ton aile, là, au deuxième étage, là, tu pourrais pas te faire une aile. On t'achèterait 20 lits en CHSLD. Puis là, on faisait ça temporairement. Puis le temporaire est devenu permanent, sans jamais établir des normes trop rigoureuses. On avait des CHSLD bas de gamme. C'est ça la vérité, là. Puis c'est là que ça a été le pire, là, la pandémie.
Mais qui coûtait quand même une fortune aux patients.
Qui coûtait, oui, aux patients, mais moins cher. Une économie importante pour le gouvernement. Ce qui faisait que quand on arrivait à chaque année, bien, on renouvelait ces contrats-là, puis on régularisait pas la situation. Ça, elle dit, ça peut plus exister, là.
Benoît?
Plus.
Ben là, on constate que ce qu'elle veut, c'est plus de staff, plus de gestionnaires, plus de staff. On veut du personnel, on veut du monde. Puis je vais vous faire un lien avec une autre nouvelle. Tu sais, on coupe les primes pour les infirmières. Fait que, tu sais, c'est comme s'il y a personne qui se parle ou tout le monde se prononce. Là, Madame Kamel note, j'étais allé voir son rapport, là, 7 fois, il y a une référence à Marguerite Blais, puis sur 7 fois, il y en a 6, c'est des dépôts de lettres ou dépôts d'informations. Il y a rien. Elle cite Marguerite Blais qui a reçu une information en ce qui a trait au CHSLD Aaron, mais elle parle pas des visites de Marguerite Blais où elle a rien vu. La ministre responsable des aînés n'est responsable de rien. Elle parle de Mme McVeigh, qu'elle trouve disgracieux ses commentaires qui blâmaient les propriétaires du CHSLD Aaron. Mme McVeigh, on se souvient, il y avait une firme de communication auprès d'elle là, quand elle a fait un appel à la police là, pour faire
un faux appel.
Un faux appel,
ouais, c'est ça. Quand même.
Alors, Mme McVeigh pourrait se recycler aussi, là, relancer l'ancienne émission d'Yvan Duchamp, là, des insolences d'un téléphone. Au moins, elle pourrait servir à quelque chose d'utile. Mais est-ce qu'elle va être congédiée, Mme McVeigh? Est-ce qu'on va la payer à vie après avoir cafouillé de cette façon-là? Qu'est-ce qui arrive avec Mme McVeigh? Est-ce qu'on la garde pour son excellent travail? Mme Blais s'en va. Puis finalement, Mme Kamel constate ce que tout le monde a constaté. Ça prend plus de responsables, ça prend plus de personnel, ça prend plus d'humanité. Ouais.
Mais il faut qu'ils soient imputables, ces gens-là.
Ben,
parce que quand la coroner dit la plupart des décès ont eu lieu quand c'était le CI3S qui gérait l'établissement Aaron, on se dit qu'il y a un gros problème.
Publique, depuis quand la fonction publique est imputable de quoi que ce soit au Québec?
Ça, non, mais nouveau. Avec la réforme Barrette, Benoît, je comprends ce que tu dis, là, que de façon générale, toute la fonction publique est conçue de telle sorte que personne ne soit responsable de rien.
Ben, c'est sûr.
Mais avec la réforme Barrette, on a réussi à pousser ça plus loin. On a trouvé une façon que ce soit encore plus ça, parce que dans un établissement, t'avais même plus un gestionnaire, t'avais même plus une telle chose qu'un...
C'était centralisé.
Un boss dans la boîte, une personne... Donc, pour les, tout le monde est au CIUS. Puis pour les ressources humaines, ben là, il y a une personne qui est responsable... Mais moi, je l'avais vu dans la région Bas-Saint-Laurent, l'effet, là, mes amis de l'hôpital de Rivière-du-Loup disaient, un employé veut un congé, la responsable des ressources humaines est à Rimouski, là. Faut t'appeler dans l'hôpital voisin, parce que c'est un CIUS, c'est le même CIUS. Ouais, c'est le même CIUS, mais tu sais, quelque part, ils sont à 150 km, 125 km, c'est des... Mais il n'y a plus de boss. C'était ça, les CHSLD, plus personne n'était responsable de rien. Par contre, là, sur la question, ça prend plus de personnel. Quand tu lis son rapport, puis tu lis le rapport de la vérificatrice générale la semaine passée, sur à quel point on n'est pas prêt pour le vieillissement de la population.
Ouais, c'est ça.
Dans les 10, 15, 20 prochaines années, on va avoir une augmentation considérable du nombre de personnes en grande perte d'autonomie. En fait, ça va quasiment doubler là, sur les 25 prochaines années. Puis, je suis même pas à... Est-ce que le gouvernement va faire bien son travail, peu importe la couleur du gouvernement? Je suis au niveau sociétal, là. Est-ce qu'on a assez de monde qui veulent aller travailler dans ce domaine-là? Est-ce qu'on a assez de monde qui ont le goût, même si tu augmentais la paye un autre 10 % puis un autre 15 puis un autre 18 la semaine?
On
va-tu avoir le monde pour prendre soin de nous, Benoît? C'est ça la question que je pose, là.
Bon, ben, ça, c'est clair. Moi, je pense qu'il faut s'apprendre. Oui, merci, Philippe Vincent. Je vais t'appeler quand j'aurai des problèmes. Mais, tu sais, quand Mme Kamel dit, faut définir quels soins de confort les installations en CHSLD doivent minimalement être en mesure d'offrir. Comment se fait que c'est pas déjà le cas? Établir un plan national afin de doter tous les CHSLD des équipements nécessaires pour donner des soins. Comment ça se fait que c'est pas déjà le cas? Introduire le principe de précaution au centre de doute de toute démarche d'évaluation et gestion de risque. Comment ça se fait que c'est pas déjà le cas? Je comprends pas, là. Tu sais, c'est des évidences pour lesquelles on paye, nous, les contribuables. Puis là, on se rend compte que, attends une minute, là, elle veut implanter des ratios sécuritaires professionnels en soins résidents dans les CHSLD. Comment ça fait que c'est pas déjà? Je comprends pas. Je comprends pas qu'on a besoin d'une coroner pour venir dire, t'as un nombre X de patients, ça te prend un nombre X de personnel. Si tu as un nombre X de personnel, ça te prend un nombre X de gestionnaires pour rendre des comptes. Puis là, évidemment, il y en a qui sont assis sur leur cul dans les CIUS puis les CIUS. Fait que ça, eux autres, faut pas trop les déranger. Je sais pas ce que ça va donner, ce rapport-là.
Ouais. Là, tu as l'autre recommandation là, sur l'indépendance du directeur national de la santé publique. Je suis pas contre ça. Je pense que c'est un des constats qu'on a fait dans la pandémie qu'il faudrait qu'il y ait plus d'indépendance. Moi, par contre, depuis le début, je pense pas que c'est le plus gros problème. Je pense que dans ce cas-ci, le plus gros problème pour les CHSLD, pour l'achat d'équipements, là, c'est que le docteur Arruda et son équipe, nos gens de la santé publique, là, en février 2020, ils regardaient venir la pandémie, mais ils n'avaient pas enlevé les bouchons sur leur longue vue. Là.
Mais non. Puis ils savaient pas dans quel état était leur système. Ils savaient pas dans quel état était le réseau de CHSLD. Ils savaient pas si on avait besoin de... Puis je vous le dis, je vous le répète, parce que ça m'a marqué, il y a une dizaine d'années, une préposée aux bénéficiaires qui travaillait dans un CHSLD m'avait appelé en onde pour me dire, écoutez, ça n'a plus d'allure. Il nous demande d'utiliser les mêmes gants pour différents patients, pour en sauver. Puis je dis, voyons donc, vous me charriez. Là, la femme était au bord des larmes, elle dit, on est à bout, on n'est plus capable. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, puis la bouffe, c'est pas réglé. Le show de barrette avec ses gants blancs, c'était de la bullshit. Fait que là, t'as un rapport, puis voulez-vous bien me dire ce que ça va changer?
Non, c'est pas vrai, mais il y a des établissements. Moi, j'ai eu des témoignages de familles où la nourriture s'est vraiment améliorée après.
Là où les gens se sont plaints, là où les gens s'est brassé, il y a eu des améliorations.
Sais-tu qu'est-ce qu'il dit, Paul Brunet, il dit, les endroits où la nourriture s'est améliorée, la nourriture est bonne. C'est les endroits
où les gens mangent.
Exactement. Où des membres de la haute direction mangent dans le même cafétéria, mangent la même nourriture. Ça devrait être obligatoire, ça. Ça devrait être une règle.
Alors qu'il y a ce rapport-là, là, moi, je pense qu'il y a un lien à faire avec ça. Tu sais, on demande plus de personnel, plus... Et là, on annonce qu'on va couper des primes aux infirmières parce qu'on appelle ça des primes COVID. Puis il y a des primes qui vont rester... Des primes qui vont... Ben, savez-vous quoi? Moi, ma mère, là, elle est hospitalisée à Cité de la Santé depuis une semaine. Puis on va changer la prime COVID pour la prime humanitaire. parce que les infirmières se cassent le cul. Ma mère a 91 ans et je n'en reviens pas à quel point ils en prennent soin. Ils essaient de la ramener, lui donner un minimum de qualité de vie. Puis cette prime-là devrait être transformée en prime humanitaire parce que je vous vois pas, je me vois pas faire la job de ces femmes-là.
Une vraie hausse de salaire.
Ben,
majeure.
C'est là, des affaires. Il y en avait une dans la dernière négo, là.
Non, mais laisse faire les négos, là. Parlons de la réalité. Parce qu'on parle de prendre soin des personnes âgées. Ben, si tu payes pas les gens correctement, là, ben, ils seront pas là pour prendre soin des personnes âgées.
Oui, mais on vient tous les augmenter, là, haut de tous les pourcentages habituels.
Mario, écoute ça, là. Des primes qui disparaissent. 100 $ pour les salariés à temps partiel qui effectuent plus de 130 heures par semaine. 100 $. Puis là, on a la liste des 15 mandarins qui gagnent un salaire de base de 300 000 $. Tu sais, des prix Nobel qui ont des monopoles puis qui disent, ben, ça va bien, on va augmenter les prix, comme Catherine Dagenais à 450 000, qui augmente une deuxième fois le prix de la SAQ. Attends une minute, là. On peut-tu mettre de l'ordre? Genre, François Legault, là, peux-tu mettre de l'ordre là-dedans? Vraiment, c'est tous ses amis, puis il veut pas les choquer. Remboursement des frais de taxi lors d'heures supplémentaires, pourquoi on enlève ça? Remboursement des frais de stationnement, pourquoi on enlève ça?
Non, mais Benoît, c'était des primes COVID, là.
Laisse faire le terme, là, Mario. Laisse faire le terme. Pourquoi on enlève des primes qui avaient du sens?
Tous les autres employés du secteur public font un gros travail. On leur signe une convention collective et on leur paye ce qui est dû. Dans le cas de la santé, on leur a demandé.
Là, t'arrives, tu dis, hey, c'est quoi? Nous autres, on calcule. On calcule pas pour ceux qui sont assis sur leur cul puis qui ont des amis au gouvernement. Mais on calcule pour les travailleuses qui travaillent le soir, la fin de semaine. Ah, le remboursement de frais de stationnement, on t'enlève ça, là. Puis le remboursement des frais de taxi, là, le soir, on t'enlève ça aussi. Hey, les gens, là, les femmes, là, qui travaillent le soir, la nuit, qui ont peut-être pas eu moyen de s'acheter une voiture, un remboursement de frais de taxi, peut-être c'est une bonne idée.
Oui, mais là, Benoît, ils sont payés. Je sais pas quoi te dire, là. C'est 2 milliards qu'on a rajouté en prime pendant la COVID parce qu'on a annulé des vacances. Moi, j'en étais. Je veux dire, la convention collective, là, des employés, par exemple, pendant le cas des infirmières, c'était une négociation différenciée. On les a pris à part pour leur verser des primes supplémentaires. Ils ont signé une convention collective.
J'ai compris tout ça, Mario. Mais d'un point de vue de reconnaissance de leur travail, un gros remboursement de stationnement ou les remboursements de frais de taxi ou même le lunch payé à la cafétéria, ça va-tu nous casser le cul? Ça va-tu nous mettre dans la rue? Alors qu'on donne des primes à des cabochons qui ont des monopoles entre les mains. On donne des primes à des gens qui n'ont pas de concurrence. Mais on enlève des primes à des femmes, majoritairement des femmes, qui travaillent le soir, la nuit, et qui prennent soin de nous. Calvaire!
T'es trop émotif, on pourrait pas te mettre président du Conseil du Trésor.
Ah, je le sais, ça marcherait par là, m'a dit. Parce que ceux qui sont là, parce que c'est des têteux,
Gérer par contre l'alliance, comment c'est le réseau Agir, là, c'est la ville de Montréal qui est censée superviser les chantiers à Montréal et coordonner le tout, et que la vérificatrice générale nous apprend que, ouais, finalement, il n'y a rien qui est coordonné. Là, on n'est pas fou, là. C'est le bordel pour vrai, là.
Ben non, on n'est pas fou. Ça vient nous confirmer. J'ai une nouvelle amie, puis elle s'appelle Michel Galipeau. Puis je peux-tu le dire en nom que je l'aime, puis je lui donne un petit bisou amical, parce que vraiment, on confirme ce qu'on sait tous quand on circule à Montréal, que c'est le bordel. Valérie Plante m'avait déjà dit, on gère seulement 25 % des chantiers. Ben oui, mais pourquoi tu coordonnes pas les autres 75 % Je comprends pas. Puis je vous rappelle, autour du pont Jacques-Cartier, c'est bloqué. Papineau, travaux, René Lévesque, Maisonneuve, partout.
Oui, mais les travaux sur René Lévesque puis Ontario ont parti. Donc, oublions, mettons, la direction ouest. Pensons, la direction ouest. Là, on part de Cube, on s'en va au pont Jacques-Cartier, comme moi je fais. Ils ont fermé une grande partie de René Lévesque, une grande partie d'Ontario, la même semaine où ils ont fermé Sainte-Catherine.
Ben oui.
Sainte-Catherine est devenue piétonne. Donc, tu fermes dans la même semaine les trois voies qui s'en vont dans la même direction, trois voies parallèles, une à côté de l'autre. Ouais. Tu dis, non, mais là, ils font exprès.
Là, on est dans le même arrondissement. Là, on n'est même pas dans la ville-centre de façon générale.
Et là, tu dis, je vais prendre Sherbrooke, puis je vais descendre Papineau vers le pont Jean-Cartier. Travaux sur Papineau. Puis là, tu dis, ben OK, je vais contourner, je vais aller prendre Delorimier, puis je vais prendre Maisonneuve. Travaux sur Maisonneuve.
Salut, mon scandale!
Non, et en plus, avec des chantiers déserts, tu passes là, c'est jamais, tout le monde s'arrache la tête, s'arrache les cheveux de la tête, puis tu regardes le chantier, il n'y a pas un chat. Il n'y a personne.
Sur Maisonneuve, je pense que j'ai vu personne. Le chantier dont tu parlais sur Maisonneuve, là, qui bloque l'accès à Papineau pour aller au pont, il n'y a jamais personne. Il y a des cônes, ils sont tout seuls là, les pauvres petits cônes, là, sont tout penauds, ils n'ont pas d'amis. Il n'y a jamais personne là.
C'est hallucinant. Puis Mme Plante répond de rien. Elle a dit, tout est correct, tout va très bien. Mobilité, immobilité Montréal, ils se promènent en pick-up, là, puis là, ils disent, ah, tout va bien.
Arrête de dire, tu dis ça à chaque fois, ils se promènent pas. Ils sont jamais dans le trafic.
Ils stationnent en pick-up. Ils laissent rouler le moteur. Puis ils disent, hey, ça serait le fun si ça roulait, hein? Ça fait juste confirmer ce qu'on sait. T'sais, on n'est pas fous, là, de voir. Puis hier, là, je vais juste vous dire, puis on parle du MTQ, là. La vérificatrice aussi blâme le MTQ là-dedans, là. Hier, là, j'ai pris le tunnel pour aller à Cité de la Santé, pour aller voir ma mère de la Rive-Sud. Et il y avait un bouchon, puis on n'en parle pas, là. En direction sud pour le tunnel jusqu'à la 40. Et là, t'as des camions qui roulent, t'as des camionneurs qui perdent leur temps et leur argent, on pollue davantage, et ça ne bouge pas. Et savez-vous quoi? Il n'y a pas un chat qui travaille sur le chantier du tunnel. Et il y a avant-hier matin, 9h30, sur le pont Champlain, en direction Montréal, pont Champlain en direction de Rive-Sud, fermé, jamais, pas ralenti, stationnement, ça bouge pas. Personne répond de ça. Moi, je comprends pas. Mmh.
Messieurs, la vérificatrice décrit, là, parce que c'était ça, il y a 10 ans, là. On se plaignait des mêmes affaires. Quand Denis Coderre est arrivé la première fois à mairie, il disait qu'il allait changer ça.
L'anneau qui fait un gros cercle en rond à Montréal, il n'y a rien de plus beau pour incarner notre politique et notre congestion montréalaise. Messieurs, bonne journée à vous deux.
Salut.